font sur place aux mêmes horaires.
Le Grand Bain, Sonia De Villers.
Cette semaine, une vieille vidéo ressurgie sur Internet va peut-être coûter sa campagne à Mitt Romney. En tout cas, les supporters du camp adverse s'emploient à la faire circuler d'un bout à l'autre du web. Samedi, le Grand Bain décortique pour vous les élections américaines sur les réseaux sociaux. Tout, vous saurez tout sur les photos de famille, les bons mots et les recettes de cuisine que le couple Obama poste à 20 millions de suiveurs sur Twitter.
Le Grand Bain, à retrouver tous les samedis sur France Inter à partir de 16h. France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, c'est maintenant sur Inter. Flan.
Je viens d'entendre Charbe au journal de France Musique de midi et demi. Là. Charbe, le dessinateur que nous aimons bien, directeur de Charlie Hebdo, qui vient de dire « On ne négocie pas avec les extrémistes ». Eh ben, mon vieux, tu parles comme Sarkozy, comme Bush, comme tous ces gens-là, quoi. Et puis c'est une belle opération financière pour Charlie Hebdo. Je me demande si c'est vraiment la liberté d'expression qui est en cause là. Enfin, ouais, voilà.
Bonjour. Petite réflexion à propos de la nouvelle publication par Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. À Charlie Hebdo, on se présente comme des défenseurs de la liberté d'expression. Mais c'est quand même bizarre, cette tendance qu'ils ont à toujours voguer sur les crises pour publier leurs caricatures. Là, c'est pile au moment où il y a des mouvements importants, une crise grave à propos de ce pseudo-film-là diffusé sur YouTube, qui provoque des manifestations et des violences dans certains pays. Si c'est simplement de la liberté d'expression, pourquoi choisissent-ils ce moment-là et pourquoi pas des caricatures publiées il y a un mois et demi? Non, pile pendant cette crise très grave. En fait, provocateur, je ne sais pas, mais irresponsable sûrement, et puis probablement aussi des gens intéressés par un petit coup de pub. Voilà, ce sont des irresponsables et un petit peu des crétins quand même à Charlie Hebdo.
Bonjour à tous. Alors, au XXIe siècle, face au fascisme religieux, l'ensemble de la classe politique française s'écrase. Il ne faudrait pas heurter dans leur foi les croyants de toutes les religions. Mais dans ce cas, je ne suis pas, moi, heurté dans ma foi, ou plutôt ma non-foi d'athée, par justement ces extrémistes religieux. Les athées ne devraient-ils pas avoir moins de droits que les autres? Je ne suis pas pour leur interdire de critiquer ou de caricaturer les athées. J'exige en retour la même chose. De plus, la presque totalité des lignes éditoriales des journaux français reste ambiguë. Il faut garder la liberté d'expression, mais ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le moment, disent-ils. Mais quand est-ce que c'est le moment? Quand il n'y a pas d'attaque à la liberté? Je pense qu'appuyer là où il y a menace sur les libertés est un devoir de citoyen. Plus que ça, un devoir de résistance.
Bonjour, je vous appelle de Tunisie, je suis un Français résident en Tunisie, et je voudrais demander à Charlie Hebdo s'ils savent ce que vont faire les 300 ou 400 salafistes qui ont déjà saccagé une partie de l'ambassade américaine à Tunis il y a quelques jours, qui ont brûlé l'école américaine, il y a eu 4 morts, 50 blessés, et tout ça parce qu'ils ont entendu parler d'une vidéo anti-islam. Donc je voudrais savoir s'ils pensent que le prophète Mohammed dans un fauteuil poussé par un juif, ça peut passer auprès de ces gars-là. Voilà, donc on n'a plus qu'à espérer qu'ils aient de l'autodérision. Ils sont connus surtout pour ça. Voilà, merci.
Dites-moi mes camarades dessinateurs Charlie Hebdo, on fait des caricatures et après on réclame la protection de la police. Il n'y a pas un petit peu d'ambiguïté là sur le coup là, hein? 5 minutes. Je vais vous dire moi la liberté d'expression. Pour moi c'est quand il n'y aura plus un seul journaliste à la solde du système capitaliste. Et c'est pas pour cirer des pompes à Mermet, mais prenez exemple sur lui. Allez, camarades de Charlie Hebdo, bon vent, salut.
Excellentissime moment que l'émission d'aujourd'hui. Je me souviens d'un prof en classe prépa qui nous disait « Lisez votre furet, faites-en ce que vous voulez, mais surtout, apprenez à toujours vous poser des questions, apprenez à comprendre, apprenez à penser. » Merci beaucoup, c'était vraiment succulent.
Merci pour votre émission sur la Révolution française. C'était vraiment passionnant. Ça m'a fait vibrer beaucoup car actuellement je suis en train de lire Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et On retrouve à la lecture des confessions toute cette ambiance qui a précédé la Révolution et tout ce bouillonnement des idées, tout ce mouvement souterrain de la société qui était en train de se mettre en place pour advenir quelques années après la Révolution française. Voilà, donc merci encore pour cette émission.
Ineptie déprimante. Non, je ne suis pas en train de parler des dessins de Charlie Hebdo. Je reprends simplement les propos d'un commentateur du New York Times, David Brooks, à propos de Mitt Romney. Mitt Romney s'embourbe, dit-on. Mitt Romney s'embourbe suite, vous le savez, à ses déclarations concernant les perdants. La moitié du pays sont des perdants pour qui l'on ne peut plus rien, a dit Mitt Romney. Alors, dans la presse française, on a dit Mitt Romney fait des gaffes. Eh bien, c'est pas du tout des gaffes. C'est exactement comme ça qu'il pense Mitt Romney. C'est comme ça que pensent les élites aux États-Unis. C'est comme ça que pense le haut de la pyramide aux États-Unis, ces fameux 1% qui détiennent 33% des richesses dans ce pays. Selon une récente étude de Pew Research de fin 2011, 20% des Américains confisque 60% des richesses dans ce pays. Donc ce n'était pas du tout une gaffe, c'était bel et bien la façon dont pense une partie de l'élite et de l'oligarchie américaine, et une partie aussi, hélas, et c'est ça qui est le plus préoccupant évidemment, des dominés et des perdants qui ont intégré, qui ont intériorisé leur galère comme une fatalité, comme on perd au jeu, comme vous perdez au jeu, et ça tombe bien puisque vos messages me parviennent ici à Las Vegas. Je commence par parler de Mitt Romney, mais vous inquiétez pas, moi aussi, je vais parler des caricatures de Charlie Hebdo. Mais je reste sur Mitt Romney. Mitt Romney n'a pas dit que ça. Il a aussi évoqué les Palestiniens, en disant les Palestiniens ne veulent pas la paix. Une gaffe, mais non, c'est exactement comme ça qu'ils pensent. Cette campagne pour les élections du 6 novembre prochain bat des records de surenchères pro-israéliennes. L'ultrasionisme est un classique aux États-Unis, surtout lors des élections, car il s'agit de séduire l'électorat juif, bien sûr, mais aussi l'électorat des chrétiens sionistes, qui sont beaucoup plus nombreux, 30 fois plus nombreux, que les électeurs juifs aux États-Unis. Les chrétiens sionistes vouent un soutien fanatique aux faucons israéliens au nom d'une croyance sur Armageddon et la seconde venue du Christ, un truc très flou, quelque chose d'assez moyenâgeux dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans la base où j'y suis. Et les républicains, donc, soutiennent l'hypothèse d'une offensive israélienne sur l'Iran. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour obtenir les voix des chrétiens sionistes, Romney et les républicains soutiennent les faucons israéliens qui sont prêts à foutre le feu au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Voilà des personnages extrêmement dangereux. Voilà des gens que une presse satirique pourrait dénoncer et tourner en dérision. Je dis tout ça parce que nos amis de Charlie Hebdo manquent un petit peu d'imagination. Voilà trois fois de suite qu'ils s'en prennent eux-mêmes, qu'ils caricaturent les mêmes. Or, ce journal, dans le passé, nous avait habitués à changer de cible, à varier un peu de sujet. Or là, il y a un certain entêtement qui ne sent pas très bon. C'est une suggestion et je vous propose d'adresser des courriers et des mails à nos amis de Charlie Hebdo en leur suggérant d'autres sujets de caricature. C'est une simple proposition. À Las Vegas, donc, on vous racontera ce qui se passe ici. C'est pas triste du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On vous racontera tout ça au retour. Aujourd'hui, les managers de transition. Rien à voir, direz-vous. Eh bien, vous allez voir le cynisme, l'opportunisme de notre époque à travers ce reportage que nous retrouvons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte locale. Au 01 56 40 37 37 et n'oubliez pas les messages à Charlie Hebdo pour leur donner
quelques idées.
Oui, bonjour. Voilà, je suis agriculteur bio d'Angers et j'écoutais votre émission aujourd'hui. Et évidemment, je pensais aussi à l'étude qui vient de révéler la dangerosité des OGM, une étude privée donc menée par Gilles-Éric Serralini. Le lien que je fais avec l'émission d'aujourd'hui, entre autres, c'est est-ce qu'être révolutionnaire aujourd'hui, ce n'est pas finalement choisir en conscience à qui on donne son argent. Voilà. Être vraiment en conscience de tous les actes que l'on pose. Il y a des gens qui veulent rester intègres, responsables, cohérents et qui se sont battus justement pour ne pas qu'il y ait ces OGM et d'autres saletés dont on en prendra les dégâts ultérieurement. Et voilà, donc je crois que la manière dont on dépense l'argent est devenue un des actes révolutionnaires importants à prendre en conscience, que l'on en ait peu ou beaucoup. D'autre part, voilà, je voulais rajouter qu'Eric Hobsbawm dit que Che Guevara n'a pas dit grand-chose d'important, à part peut-être le petit manuel Guerre de guérilla. Pour ma part, je me suis rendu pour le 40e anniversaire de la mort du Che en Bolivie, et je me souviens de cette phrase où il dit « Surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. » Donc je crois qu'il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que Che Guevara, c'est pas pour rien qu'il est une icône mondiale de la révolution. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.
Oui, bonjour Daniel Mermet. Alors, voilà, j'ai un petit message pour le gouvernement des socialistes, et non pas de toute la gauche, pour la ratification du traité Merkel-Sarkozy. Je leur conseille de relire la poésie de Jean de La Fontaine, « Les animaux malades de la peste ». Et ce qu'ils vont faire du peuple s'ils ratifient ce traité. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Voilà, c'est le message d'Anne-Marie. Au revoir.
Yvelinoise, Yvelinois, Marlichoise, Marlichois, et tous ceux qui veulent se joindre à nous, bien sûr. Le Café Repère de Marly-le-Roi réouvre ses portes pour l'année 2012-2013 le samedi 22 septembre à partir de 16h30 au bar-restaurant Le Fontenelle, 30 rue de Fontenelle, derrière la gare SNCF de Marly-le-Roi. Venez nombreux, venez tous participer au Café Repère de Marly-le-Roi samedi prochain. Je vous remercie beaucoup, à toute l'équipe. Au revoir.
Combien de plans sociaux vous avez dû faire ?
En tout, beaucoup. Un plan social, c'est d'abord une démarche très volontaire de la part d'une entreprise. Enfin, on sait bien qu'elle met en jeu son image. Elle met en jeu aussi des sommes qui sont très importantes. Quoi qu'on puisse en dire, une société qui rentre là-dedans fait une démarche qui quand même est risquée et qui demande un certain courage.
Le métier de management de transition et le métier que je fais aujourd'hui, et pour moi, c'est un jeu. Et je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein.
Est-ce qu'il était légitime ?
Ouais, je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal en tout cas.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Pascal Pascariello, manager de transition, un bien joli métier.
Flight number 2, arriving from New York.
On est au cœur de la défense, d'ailleurs on a un peu l'impression d'être dans un quartier américain, il y a des grandes tours de partout autour de nous. Les deux tours qui nous entourent sont celles de Total et Areva, ce sont deux clients potentiels.
Nous, on travaille en confidentialité et donc on a des accords de confidentialité. On ne peut pas citer le nom d'un client sauf à lui avoir demandé préalablement. Les entreprises ne souhaitent pas forcément communiquer sur le fait qu'elles utilisent des managers de transition. Et nous, si vous voulez, par déontologie, comme vous allez voir un médecin, si vous voulez, parce qu'on a un petit peu ce rôle-là, vous ne souhaiteriez pas que votre médecin parle de la maladie de Madame Attel. Voilà. Donc, nous, c'est pareil. On est au cœur des entreprises. On est au cœur des problématiques des entreprises. Et donc, on est dans une relation de confidentialité totale, en général.
Ouais, cool. Avec cette cruche, mais tout le monde est déprimé. Tout le monde s'inquiète, tout le monde s'angoisse. Mais pas tout à fait tout le monde, quand même. Vous entendez, ce manager de transition Pour lui, ça va pas mal, hein. La destruction des emplois crée des emplois. Et des emplois qui sont pas mal du tout. Manager de transition ou consultant de restructuration, c'est pas mal. Une soirée, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Ah, moi, je suis consultant de restructuration. Ça vous pose une personnalité. Alors, bien sûr, il se trouve des mécontents, des aigris, comme on en entend dans certaines émissions de radio, pour appeler ça des coupeurs de tête, des mercenaires, du plan social, mais peu importe, ça fait partie des dommages collatéraux. Les dernières études de la profession de manager de transition montrent que 30 à 60% des entreprises risquent de faire appel à un manager de transition. Hein, c'est pas mal. De nombreux salariés vont donc voir arriver bientôt, cette année, dans les semaines ou mois qui viennent, un de ces affables cadres chargés de les foutre dehors. Ça coûte facilement de 1 000 à 1500 euros la journée, les prestations de ces hommes et femmes-là. Alors, on avait fait un appel parce qu'on voulait savoir qui sont ces nettoyeurs, ces licencieurs, ces managers de transition, comme vous voudrez. Ben, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup de succès, quelques vagues pistes, mais non. Il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin, notre micro de la basse si j'y suis, pour en rencontrer quelques-uns qui ont bien voulu nous répondre et nous expliquer comment ils font ce joli métier. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Manager de transition, un bien chouette métier.
Mademoiselle, monsieur, il n'y a pas de sous-métier. De toute façon, c'est ça ou rien. Choisissez. Vous prenez ou vous ne prenez pas, vous exagérez. Réfléchissez. Le train ne repassera pas, la charrette, oui. Si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Vous n'aviez qu'à, vous n'en seriez pas là. Pas de vieux chez nous, si vous ne trouvez pas, interrogez-vous. Pas de PD chez nous, vous êtes enceinte. Il faut bien que l'entreprise tourne, et les Français d'abord, je vous prie. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est ça où notre entreprise dépose le bilan. C'est la loi du marché. Je suis au regret. Logement social, 7 enfants et autant d'allocations. Ça leur fait de jolis revenus. Cherchent un emploi ? Non, ils cherchent pas. Ni responsable, ni coupable, hein, tout leur est dû. Mais comment expliquer que vous soyez resté sans emploi pendant plus d'un an ? Reprenez-vous, je vous pose une question, une simple question. Je suis recruteur, je fais mon métier, je ne fais que mon métier. Mademoiselle, monsieur, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve, on prouve. Je vous remercie.
Vous l'avez bien mérité. Vous l'avez pas volé.
Bernard Tronel, donc directeur général de Essensis France. J'ai découvert aux États-Unis le management de transition. C'était en 1984. Et j'ai décidé donc en 1988 de créer ma propre entreprise de management de transition en France, après avoir passé 8 ans aux États-Unis.
Si on prend le cas d'un plan social, est-ce que faire un plan social, c'est mieux rémunéré ?
Non, le cas du plan social, les plans sociaux sont souvent des missions d'expertise. Donc elles font partie des missions les mieux rémunérées, mais pas plus chères que les autres missions d'expertise. Je vais vous donner une fourchette très large, hein, puisque vous comprenez que le DRH d'une entreprise de 10 000 personnes n'a pas la même rémunération qu'une entreprise de 200 personnes. Mais grosso modo, ça va de 80 000 euros à 250 000 euros par an.
Voilà, un bon petit boulot, manager de transition. Vous avez tout compris. Quand dans une entreprise, on trouve la mort dans l'âme, et on est obligé de se séparer de quelques salariés, on est d'abord très malheureux, très malheureux. Les cadres et les dirigeants de l'entreprise ne dorment plus. Pour eux, c'est une vie d'enfer, c'est terrible. Et quand vraiment ils n'y arrivent pas, et ben ils font appel à un manager période de transition à quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui fait le boulot à leur place et qui repart ensuite après avoir vidé l'entreprise, fait le boulot, quoi. Voilà. Mais il y en a à qui ça ne déplaît pas du tout. Là, la preuve, Bernard Tronel de Essensis, qui explique un petit peu en quoi consiste son joli métier.
Le métier de management de transition et le métier que je fais aujourd'hui est un métier qui est absolument passionnant, hein, puisqu'on est au cœur de la problématique des entreprises. On se doit de leur trouver des solutions souvent extrêmement pointues dans des délais très rapides. Et pour moi, c'est un jeu. Et je vis de façon extrêmement heureuse et sympathique cette fonction. Hein. Bien sûr, la crise actuelle est très dure et se traduit par des licenciements. Mais malheureusement, on est dans une situation économique qui est difficile. Je pense que la crise, les vrais effets de la crise sur le plan industriel sont plutôt devant nous que derrière nous. Et je pense que malheureusement, on aura encore un certain nombre de plans de licenciement. Bah, il faut assumer, il faut dialoguer, il faut anticiper, il faut parler, il faut... Et c'est comme ça qu'on réglera les problèmes, hein.
Il y a clairement une augmentation de la demande. On est dans un marché qu'on estime à peu près en progression de 25 à 30% par an. Notre offre répond exactement à ce dont ont besoin les entreprises. Nos managers ne sont pas des mercenaires. Nos managers sont plutôt des chirurgiens ou des médecins. Soigner, c'est quand on nous demande de gérer du changement. Donc là, il est plus médecin dans la mesure où il va porter un diagnostic. Il va proposer des solutions et il va mettre en œuvre les solutions.
S'il intervient dans un plan social, les salariés prendraient mal le terme de médecin. Ils diraient non, il n'est pas en train de nous soigner.
Comme vous le savez, malheureusement, les chirurgiens sont amenés à amputer certaines personnes pour les guérir. On est dans cette problématique et il y a certaines opérations qui n'ont pas de conséquences à terme et puis il y en a d'autres qui ont des conséquences. Et parfois, pour sauver des vies, on est obligé de procéder à des opérations chirurgicales lourdes. Il vaut mieux vivre... Après, c'est des choix personnels, mais je pense qu'il vaut mieux vivre en chaise roulante que de passer. Voilà, que d'arrêter de vivre.
Bon, il vaut mieux vivre amputé des bras plutôt que de la tête.
Voilà.
Moi, c'est Christian. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, c'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, 7h02, je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit.
Je suis Luc Bramy, je fais de l'intérim management dans le cadre des restructurations et dans tous les aspects relations sociales, donc les négociations, ce genre de choses.
Vous avez quel âge ?
J'ai 43 ans. Alors en fait, j'ai absolument pas une formation de DRH, je suis ingénieur à la base. J'ai commencé par faire différents métiers pour en arriver finalement à faire du conseil, pour en arriver ensuite à tout ce qui était négociation. Petit à petit ensuite, j'en suis arrivé à la restructuration et enfin le produit, j'irai fini à aujourd'hui, c'est donc de l'intérim management, du conseil et de l'intérim management sur tout ce qui est plan social. Généralement, quand on m'appelle, j'ai plutôt une spécificité plan social.
Voilà, une spécificité plan social, nous dit Luc Bramy, voilà, des années qu'on vous présente des reportages avec des histoires de plans sociaux, comme on dit, c'est-à-dire de licenciements, de destruction d'emplois à travers tout le pays, mais on est toujours du même côté. On est toujours du côté des licenciés, des syndicats, parfois des élus locaux. Voilà, ça se limite à ça, du côté des victimes et du côté des impuissants. Mais on est rarement, ou même jamais, nous n'avons pu rencontrer ceux qui mettent ces plans sociaux en application, c'est-à-dire ces directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, ou là, en l'occurrence, les managers de transition, c'est-à-dire ceux qui viennent faire le boulot à la place
des autres qui n'ont pas envie de le faire ou qui sont impuissants à le faire ou qui n'ont pas forcément envie de regarder les gens qu'ils vont virer droit dans les yeux. Alors on a vu Gérard Tronel, directeur du cabinet 106. C'est un cabinet spécialisé dans le management de transition, donc ils ont en moyenne 120 missions par an, dont 10% concernent des plans sociaux. Et donc, ils envoient des cadres qui se mettent à la disposition des entreprises, des multinationales, des grandes entreprises, et ces cadres occupent des postes de directeurs généraux, directeurs financiers ou directeurs de ressources humaines, le temps de faire le travail. Et maintenant, on est avec Luc Bramy, 43 ans, qui, lui, n'hésite pas à répondre aux questions des journalistes. Il est un des rares à répondre. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas qu'on me colle l'étiquette de salopard sur le front tant que j'ai la fierté d'avoir bien fait mon métier. Il aime bien ça, son boulot de interim management. Et les plans sociaux, c'est des situations qui exigent du manager plus d'intuition que de réflexion. Et ça, c'est stimulant. Luc Bramy.
Ça fait combien d'années que vous le faites ?
Ça fait à peu près 5 ans.
En 5 ans ? Vous, à peu près combien de plans sociaux vous avez fait ?
En mission, j'en ai fait 3.
Et ça représente à peu près combien de personnes qui ont été licenciées ?
Licenciement sec, ça en représente un peu moins de 1000. Maintenant, en termes de nombre de suppressions de postes, ça en représenterait de l'ordre de 2000-2500. Il y a un aspect légal des choses. Est-ce que vous pouvez faire une délocalisation ? Certainement. Il y a des juges qui ont jugé ça, ils ont regardé les arguments de l'entreprise, ils sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait le faire. Donc il y a la possibilité légalement de le faire. Maintenant, est-ce que c'est moral ? C'est un autre sujet. De toute façon, ce n'est pas une question de moralité. La moralité ne se joue pas là, malheureusement. Alors, est-ce que ça se justifie de faire un plan social ? Moi, je n'ai pas créé le capitalisme, mais il me semble que le principe, c'est qu'il y a d'un côté des actionnaires avec un capital qui doit ramener quelque chose, et puis de l'autre côté, il y a les salariés qui sont là, normalement, pour amener du travail, et il faut que ça ramène plus à l'actionnaire que ce qu'il paye de travail. Donc, à partir de là, si ce schéma n'existe plus, c'est qu'il y a un problème. Donc maintenant, si on veut, on revient sur tout le système pour que les gens vivent plus sereinement. Mais tel que le système est, le plan social, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme étant incontournable.
Vous vous rappelez le jour où vous avez appris que la scierie de Gandrange allait fermer ?
Ben, ouais.
Ça vous émeut encore, en fait ?
Ça veut dire qu'il t'autorise à sortir.
Où est-ce que vous étiez, vous, à ce moment-là ?
Au coulé continu. Je suis rien que mon fils, et puis...
Là-bas, si j'y suis, 28 avril 2009, à Gandrange.
Vous n'avez plus de voix ?
Plus de boule.
Parce qu'on pense que ça fait un an et que du coup, l'eau a coulé sous les ponts et que pour vous, vous êtes passé à autre chose, mais pas du tout, en fait.
Non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. On est tous, là, en ce moment, on est tous sur les nerfs. Bientôt, les seuls qui vont perdre de l'argent, c'est les pharmacies. Parce qu'on est tous sous troxène, on est tous sous calmant. Tout le monde est énervé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus de quoi parler. Et on se regarde, on se demande où on va aboutir, là.
C'est un choix stratégique. De la même façon que vous faites un investissement pour vous lancer dans un nouveau business, vous faites un autre investissement. C'est un investissement, il ne faut pas se le cacher. Vous faites un investissement qui va vous amener à être avec tant de personnes en moins, dans une autre configuration, avec peut-être des coûts moindres. Vous allez peut-être vous trouver mieux placé auprès de vos clients pour pouvoir vendre, et puis j'en sais rien. Donc c'est véritablement, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise, quoi. Vous ne le lancez pas sans le faire relire par un avocat. Vous avez un avocat en droit social qui est présent à vos côtés. De la même façon, vous avez un budget sur le sujet, vous avez un contrôleur de gestion qui est à vos côtés pour contrôler que vous avez pris les bonnes provisions, que les coûts sont impactés correctement, etc. Enfin, grosso modo, c'est comme un projet d'investissement et vous êtes guère que le chef de projet.
Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes intéressé ? Ah, ça vous plairait, ça, ce métier de manager de transition ? Alors, seulement, il faut que vous imaginiez, vous pensiez comment appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi. Ne dites pas licenciement, ne dites pas je suis le mercenaire des actionnaires, ne dites pas je vais nettoyer cette boîte. Et vous dites plan de sauvegarde de l'emploi, mode d'emploi.
Dans le cadre d'une restructuration avec des suppressions de postes, il y a ce qu'on appelle, ce que la loi appelle, le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social.
On ne dit pas licenciement dans la loi.
On doit en parler, mais la loi, elle dit simplement qu'il y a deux aspects qu'il faut traiter. Il faut expliquer la réorganisation et il faut expliquer comment on va atténuer l'impact sur l'emploi. C'est-à-dire que quand on fait des suppressions de postes, grosso modo, vous supprimez un poste d'opérateur, vous pouvez en avoir 100 dans une usine, et puis après, vous avez des gens. Dans cette partie-là, on parle des gens. Donc, les postes d'opérateurs, ils peuvent être occupés par des intérimaires. Il peut y avoir des gens qui ont des CDI dessus, des CDD, enfin. Le plan de sauvegarde de l'emploi, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre ces postes et ces gens. C'est généralement ça qu'on voit apparaître dans la presse, c'est tant de suppression de postes, tant de licenciements secs. Donc c'est comment à la fin on va avoir géré ce problème. Par exemple, dernièrement, je crois que Air France a annoncé des suppressions de postes, mais a indiqué qu'il n'y aurait aucun licenciement sec. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont faire partir peut-être les intérimaires. Ensuite de ça, ils ne vont pas reconduire les CDD. Ensuite de ça, ils vont proposer peut-être des formations aux gens. Ils vont regarder les gens qui vont partir à la retraite. Est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être anticiper un peu la retraite? Donc c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Ça fait partie des populations pour lesquelles on essaie d'amener une solution. Vous pouvez faire partir toutes sortes de personnes. Normalement, une entreprise qui fonctionne correctement sur la gestion des ressources humaines, elle n'a pas à garder, entre guillemets, des canards boiteux. Il y a différents cas. Il y a des gens qui ont des maladies. Il faut voir si la maladie a été traitée en termes d'handicap. Est-ce que ça correspond à un handicap? Et dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne font plus le boulot depuis longtemps. Enfin, il faut essayer de traiter le problème qui fait plus le boulot. Enfin, il faut traiter ces situations-là. Ils vont aussi voir qui est-ce qui veut être volontaire. Et on va offrir en effet un certain nombre de moyens, d'incitations pour que les gens partent.
Moi, je suis rentré à 17 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré, que j'avais 17 ans et demi, ils m'ont dit, tu rentres dans une grande famille.
Gérard.
On va s'occuper de toi, on va te protéger jusqu'à ta retraite. Et puis là, je vois qu'ils me lâchent.
Là-bas, si j'y suis, 30 avril 2009, à Grenoble.
Là, c'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent. C'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent, carrément. Voilà. On me dit, bon, ben, t'as 50 ans, c'est fini, maintenant tu dégages. Tu dégages, on ne veut plus. Voilà. C'est comme ça que je le prends, donc je leur en veux. Par rapport à l'éthique Caterpillar, moi j'ai conditionné toute ma vie autour de Caterpillar. J'ai travaillé les heures supplémentaires, les horaires, la flexibilité, dans tous les domaines. Et puis maintenant, bah, j'arrive à 50 ans, je fais quoi?
Vous, votre premier plan social, comment ça s'est passé?
Ben en fait, je suis arrivé dans l'entreprise pour aider la direction dans ses aspects communication, l'aider à faire la négociation. Enfin, j'étais là vraiment comme conseil.
Et est-ce qu'on peut nommer cette entreprise ou pas?
Alors, je pense que ça présente assez peu d'intérêt. Bon, c'est une entreprise dans les semi-conducteurs. L'entreprise voulait fermer une usine dans la Bretagne. Voilà. Le DRH lui-même l'a assez mal vécu. Il était, je dirais, déjà très affecté par la rupture du dialogue qui existait. Enfin, il a dû être arrêté. Il a été malade.
Et donc, c'est vous qui avez pris sa place?
J'étais arrivé là tout à fait sur le principe du consultant. Et j'aurais jamais pensé que je deviendrais DRH. Et au demeurant, j'avais pas du tout la formation pour le faire.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Ben, j'avais 38 ans. Et donc la procédure s'est quasiment uniquement passée sous l'angle un peu juridique. C'est-à-dire que pour convoquer un CE, il fallait faire un référé. Pour arriver à discuter, il fallait quasiment venir avec un huissier. Enfin, c'est pas des conditions de dialogue particulièrement agréables. Le dialogue s'était tellement radicalisé que tout le monde était en grève. La gestion courante, elle se réduisait à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous n'avez personne qui produit. C'est une situation qui est assez terrible pour tout le monde parce que ça vous focalise complètement sur le seul sujet qui est la fermeture, la restructuration. Je peux vous dire en tout cas que le jour où il y a une grève, ils ne parlent plus que de ça. Donc c'est vrai que là, vous avez des gens qui vivent encore plus mal cette situation. Et en fait, on est resté avec des gens qui pendant... donc moi, je suis arrivé en janvier et en juin, il s'est terminé. Donc c'est-à-dire qu'on a fait les licenciements en juin. Si vous voulez, pendant ces 6 mois-là, ils n'ont quasiment pas travaillé. Ils étaient quasiment tous en grève, sachant qu'eux, ils étaient payés. Je dirais que ce n'est pas un plan que je qualifierais de réussi. Ça a donné lieu à énormément de procédures juridiques qui, au demeurant, ont été gagnées par l'entreprise. Mais ça, ce n'est pas le fond du sujet. C'est que les gens, en fait, sont restés dans le conflit pendant des années et des années. Et que ce n'est pas le climat le plus opportun pour arriver à se retrouver un emploi. Quand on se sent encore dans son passé, dans une situation d'obtenir gain de cause, on ne peut pas avoir un comportement, je dirais, tranquille face à son nouvel employeur. Le reclassement a été très difficile. C'était la seule usine de semi-conducteurs de la région. Et donc, il n'y avait pas de possibilité de retrouver un emploi, je dirais, dans le même domaine d'activité. C'était une usine qui avait recruté à la fois le père, la fille, le maire. Il n'était pas rare de voir 2, 3, voire 4 personnes qui, de la même famille dans l'usine. Quand vous avez 4 personnes dans la même famille qui sont touchées par les licenciements, ça devient en effet très difficile. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans cette activité, qui sont des gens très bien. Il y a tous les cabinets de reclassement, c'est-à-dire tous les gens qui sont là pour essayer de trouver un nouvel emploi, aller chercher des emplois, aider les gens à passer le cap. Souvent, le plan social, c'est des gens qui ont une certaine ancienneté et qui ont certaines fois jamais envisagé d'aller rechercher un autre boulot ailleurs. Donc, en particulier, quand on est dans une fermeture, on sait que c'est l'ensemble des cas qu'on va devoir traiter. Je vais vous dire, le pire des cas, généralement, le cas qui est vraiment le plus compliqué, c'est quelqu'un qui est alcoolique. Dans un plan, il y a toujours une ou deux personnes qui est alcoolique. Généralement, la personne est devenue d'autant plus alcoolique à cause du plan et de la situation qu'il a eu à vivre. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, il faut essayer de le ramener dans une situation où il va se retrouver un confort. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout un ensemble de professionnels qui interviennent sur un plan social. Il y a des gens qui font du reclassement. C'est un domaine compliqué où il faut avoir beaucoup d'empathie, où il faut avoir... faut pas abuser, mais il faut savoir le faire un petit peu. Et ça, c'est un vrai boulot. Et pour être clair, c'est pas un boulot que moi, je fais. C'est très difficile de quitter une entreprise. C'est très difficile de faire la rupture. La rupture, elle est portée par les personnes comme moi. C'est-à-dire que moi, je les amène jusqu'au moment où ils ont leurs lettres, ils ont un entretien ou pas, enfin, ils ont un certain nombre de choses. Et après, il faut que je les mette entre les mains de la personne qui va les reclasser. Et cette personne-là, moi, je vais le pousser pour qu'il traite avec dynamisme la situation de façon à ce que les gens soient reclassés.
D'accord, vous les amenez au bord de la falaise.
Exactement.
Vite. Allez, pour mettre un coup, les gars, là.
Je suis pas payé au pourcentage. Généralement, c'est de la prestation. On est payé à la journée, on est payé par contrat.
Vous êtes payé combien ?
Ça varie entre 1 000 et 1 500 euros.
Par jour ? Net ou brut ?
C'est des honoraires, c'est-à-dire que c'est grosso modo un montant à la journée qui correspond à des honoraires comme des honoraires de conseil.
Combien de temps ça dure à peu près en moyenne une restructuration ou un plan social ?
La partie procédure, donc par rapport à l'annonce, on a à peu près de l'ordre de 6 mois, entre 3 et 6 mois pour faire tout ce qui est discussion, négociation du plan social. Donc une fois qu'on a terminé ça, dans la plupart des cas, on est dans un timing où il faut entre 1 et 2 mois pour déclencher les licenciements. Et ensuite de ça, il y a généralement entre 6 et 9 mois pour le reclassement. Donc tout cumulé, on est sur une base de 1 an à 1 an et demi.
Et quand vous voyez certains DRH réaliser qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils se disent non, là, il y a par exemple, c'est une famille, là, ils ont des crédits, si je les mets au chômage, c'est la fin de tout.
Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il ne faut pas faire la restructuration. Si vous projetez votre culpabilité sur les gens qui vont être touchés par cette restructuration, l'effet que vous donnez est terrifiant. Moi, je critique pas, hein, c'est juste que c'est pas à faire. Il faut voir que normalement, un DRH, il doit gérer en étant capable d'être équitable. Et équitable, ça veut dire que il faut pas non plus qu'il s'attache aux personnes. Un DRH qui dit « j'aime bien ce type-là » et qui a une attitude qui va dans ce sens-là, c'est un risque. Ça reste quand même une situation qu'une entreprise n'a pas véritablement envie de vivre. Et tous les DRH, dans des groupes très restructurés ou qui passent leur temps à restructurer, petit à petit, ils s'usent et ils se fatiguent de la situation. Il y en a beaucoup qui disent « moi, je vais aller dans un groupe où il n'y a plus de restructuration ». Bon, là, avec la crise, c'est plus difficile de trouver.
Mais alors, c'est quoi qui vous plaît, vous ? Puisque vous êtes missionné pour ça, alors ?
C'est une situation qui est relativement difficile à gérer. Donc, il y a une vraie tension. Il y a une vraie difficulté et on a la satisfaction du travail à l'arrivée bien fait. Sachant qu'au début, c'est la pilule amère, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez là-dedans, vous êtes souvent énormément maltraité, vous avez quand même un certain temps où vous êtes le paria de la société. Et c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer dans ce genre de climat. Mais bon, si vous n'avez pas le besoin que tout le monde, quand il vous voit, vous dise « je vous aime », ça peut se passer assez bien. Mais non, c'est difficile de savoir se dire la notion un peu de mission, de mercenaire, doit être critiquée ou pas dans ce cas-là, quoi.
Vous acceptez ce terme de mercenaire ?
Le mercenaire, oui, à condition de ne pas trop galvauder le terme et en considérant qu'il y a un point qui est essentiel, c'est que moi, j'obéis. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche à faire, si on m'a demandé de venir pour faire un plan, j'obéis. Beaucoup de gens m'interpellent en me disant « mais vous vous sentez pas mal de faire ça ?» Et vous devriez vous arrêter immédiatement si vous aviez un peu de conscience. C'est pas exact. C'est une situation où une fois que vous êtes engagé dedans, il faut aller jusqu'au bout. Écoutez, on a forcément des états d'âme. Maintenant, au-delà de ça, faut les avoir à bon escient. Vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas un héros. Vous êtes juste la personne qui fait un métier difficile, mais si vous l'amenez bien à son terme, vous aurez la satisfaction de ce que vous faites.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
Donc, je m'appelle Didier Crespel, je suis donc le directeur général du groupe Sermo. Donc, j'ai fait d'abord une école de commerce et puis ensuite j'ai été plutôt dans les fonctions financières, contrôleur de gestion, puis directeur financier. Et en 97, j'ai pris un poste de direction générale chez Valeo, donc de 97 à 2000. Et depuis 2000, donc, je suis directeur général de la société Sermo.
Alors, je vais vous laisser peut-être reprendre votre Perrier.
Merci.
Voilà, Didier Crespel, 47 ans, manager de transition après Luc Bramy, après Gérard Tronel aujourd'hui. Ces messieurs, parfois ce sont des dames aussi, bien sûr, qui font tâche de, vous avez compris, restructuration et tous ces euphémismes. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, on dénonçait la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, on s'accomme très bien de la dictature de l'actionnariat, parce que la cause de ces destructions massives d'emplois, elle est là, pas ailleurs, dans l'exigence des actionnaires et des groupes d'actionnaires qui exigent des rendements de 15%. Tout est dû à cette avidité monstrueuse qui exige des rendements à très court terme. Alors, il arrive aussi, bien sûr, on l'a vu à nombreuses reprises, que le salarié soit l'actionnaire aussi et que l'exigence du principe d'actionnariat fasse que le salarié se trouve licencié par lui-même, puisque il est actionnaire aussi. C'est un paradoxe et une schizophrénie tout à fait stupéfiante de notre époque. C'est un trait de notre temps. Didier Crespel, donc, lui, comment s'y prend-il pour faire ce joli métier ?
J'étais d'abord directeur financier chez Valeo à partir de 1993. Et je suis devenu directeur général en 1997. Ben, du côté de chez Valeo, en fait, les divisions, enfin ce qu'on appelle chez Valeo une division, c'est-à-dire un centre de profit, je dirais une usine, la stratégie est quand même largement décidée au niveau du groupe. La bourse a bien sûr exigé des rendements court terme extrêmement importants sur les entreprises. Les actionnaires sont devenus opaques au sens où on ne connaît plus les actionnaires pour lesquels on travaille finalement. Qui viennent avec des exigences de rentabilité qui ne permettent plus d'avoir un raisonnement un peu plus long terme, donc un peu plus projet. Donc on est sur du capitalisme qui va exiger des rentabilités fortes à court terme et donc qui va ainsi changer complètement le rythme et puis le mode de management aussi des entreprises. À ce moment-là, le salarié devient effectivement une variable. Et il y a eu beaucoup de délocalisations qui se sont structurées de cette manière-là. Donc les délocalisations étaient des accélérateurs de rentabilité pour les grandes entreprises. À l'époque, en ce qui me concerne, je m'occupais de sociétés en Allemagne. Donc on a transféré une partie de notre production d'Allemagne en République tchèque.
Moi, je suis syndiquée depuis 1974.
Marie-Hélène.
Nous, si on a envie d'être en colère, on y sera. C'est parce que quand Sarkozy dit qu'il va s'occuper des petites gens, et puis qu'il est parti en vacances sur un yacht, ou combien ça coûte par jour, et c'est lui qui va nous donner des leçons ? Ah bah non, alors.
Là-bas, si j'y suis, 29 mai 2007, avec les ouvrières de CCE.
Et c'est lui qui va s'occuper du monde ouvrier ? Mais on se fout de qui, là ? Il y a un cul au monstre, hein ? Alors que mai 68, pour lui, il faut l'effacer. Mais justement, mai 68, c'est d'actualité aujourd'hui.
Ah, c'est comme il dit, Sarkozy, derrière un chômeur, il y a un feignant. Bah, qu'on nous laisse notre outil de travail, pourquoi qu'on nous l'enlève ? S'il est si malin, qu'il nous laisse notre usine.
Je suis sûre qu'ici, il y a des enfants, comme moi, mon fils qui a 22 ans, il galère, hein, il est soudeur, mais c'est une semaine par-ci, une semaine par-là. Il n'y a jamais un CDI, c'est toujours de l'intérim. Et il ne vivrait pas sous notre toit, qu'est-ce qu'il ferait ? Moi, si il n'habiterait pas à la maison, eh ben, ça serait un SDF. Et ça, je ne sais pas si les 440 y voient tout ça. Hein. Donc à venir chez nous, on va leur montrer. Mais ils ne viendront pas.
Combien de plans sociaux vous avez dû faire ?
En tout ? Beaucoup. Je sais pas, enfin, plus ou moins important, mais 7-8, quoi. Oui, c'est beaucoup.
En combien d'années ?
En 10 ans, 12 ans.
Et vous savez à peu près combien de personnes ça représentait ?
C'est 800, 900 personnes. Et c'est beaucoup.
Comment vous l'avez vécu, ce moment ?
Bah, ce n'est pas des moments faciles au sens où on parle de départ, on parle de gens qui vont avoir une rupture. Et donc c'est un climat potentiel de tensions fortes et de difficultés, quoi. Donc il faut aborder, enfin moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'aborder les choses de manière calme, de manière exposée, de pas partir dans un espèce de conflit, de confrontation. C'est des phases complexes, quoi. Et bon, il y a une difficulté technique, ou je vais dire professionnelle, hein, de mener des négociations. Et puis derrière, il y a quand même une certaine empathie, si vous voulez, avec ce que vous êtes en train de faire.
Et est-ce qu'à un moment donné, vous auriez pu ne pas l'appliquer, ce plan social ? Est-ce que vous auriez pu refuser ? Est-ce que vous aviez eu envie
non,
de...
Non, enfin bon, soit on fait le job, on va dire, et puis on fait, quoi. Soit on ne fait pas, quoi. Enfin, je veux dire... C'est pas une histoire de rentrer en résistance. Je pense que l'entreprise, c'est pas un lieu où on rentre en résistance. Il y a d'autres vecteurs. Si on n'assume plus son rôle de directeur général avec ce type de contraintes, il y a une autre façon de s'exprimer que de rester dans l'entreprise à mener son combat, quoi. Je pense que c'est incompatible.
Et pourquoi c'est incompatible ?
Parce qu'on est payé, on a un job pour remplir un certain nombre de fonctions. Et si on n'est pas d'accord avec cette fonction, il faut sortir de l'entreprise et puis faire autre chose. En tant que dirigeant d'une entreprise, on n'a pas, à mon sens en tout cas, ce droit.
C'est un droit, et pourquoi vous ne le prenez pas, ce droit ?
Enfin, on a une mission, et soit on la remplit avec la meilleure volonté du monde, ou soit on sort de l'entreprise et puis on fait autre chose, si on n'accepte pas les règles du jeu.
Et votre rémunération chez Valeo était de combien à peu près en tant que directeur général ?
Ça, je le dirais pas.
Pourquoi ? Ben non, mais pour qu'on ait un...
Non, mais parce que d'abord, je m'en souviens pas, et puis bon, c'est quand même...
Comment ne pas se souvenir de... Bah, un salarié, moi, bah, à chaque fois, quand je demande un salaire, on me le donne.
Non, mais non, ça, je ne rentre pas dans cette discussion-là, parce que, si vous voulez, c'est cloué au pilori, les patrons qui gagnent trop par rapport aux salariés. Donc, si vous voulez, si vous mettez un chiffre dans la nature, et que je ne pense pas que ça contribue, effectivement, à améliorer l'image des patrons d'une façon ou d'une autre. Donc,
Pour essayer d'avoir un ordre d'idée, c'est logique, ce n'est pas du tout pour vous mettre au pilori, c'est pour essayer de comprendre.
Oui, mais bon, non. Je... Non.
Pour revenir, par exemple, sur Valeo et le plan social que vous avez fait, quand vous dites j'étais un bon petit soldat, c'est que quand on est un bon petit soldat, on essaye de...
On se pose pas de questions. Enfin, je parle pas au niveau de la morale ou de quoi que ce soit, mais enfin, je veux dire, on exécute, quoi. C'est pas, y a pas plus de réflexion que ça, quoi. Le jugement moral n'intervient pas dans cette sphère-là, mais enfin, quand je dis bon soldat, c'est d'adhérer au projet de l'actionnaire tel qu'il est. Hein, c'est-à-dire ne pas tenter autre chose, ne pas essayer de développer d'autres secteurs ou des choses comme ça. Donc,
il y a des choses que vous avez regrettées, Valeo, que vous vous dites j'aurais pu peut-être.
Chez Valeo, oui, il y a un certain nombre de choses quand même que j'ai déplorées, hein, notamment des développements qu'on avait prévus et qu'on n'a pas fait. Mais plus dans la stratégie générale, si vous voulez, que dans le plan social en particulier.
Dans le plan social, vous ne pensez pas que vous auriez pu soit le minimiser, soit l'éviter ?
Voilà, je ne pense pas que c'était... Enfin, on aurait pu peut-être un peu l'atténuer, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a finalement fait. Quoi.
Est-ce qu'il était légitime ?
Ouais, je pense que c'est un plan social légitime. Il était légal, en tout cas. Maintenant, l'État n'intervient plus dans les plans sociaux. Donc l'État intervient médiatiquement dans les plans sociaux, mais n'a pas de moyens d'action sur les plans sociaux, véritablement, sauf des moyens de pression sur les entreprises, mais n'a pas de moyens. Enfin, l'État ne peut rien faire, en fait. Hein. C'est une affaire privée entre des salariés et puis une entreprise. Hein. Donc l'État peut orienter, peut animer, peut tenter de prendre des mesures pour relancer l'économie, relancer l'investissement, mais n'a pas de pouvoir.
De ce que vous m'expliquez, c'est-à-dire soit on accepte la mission, soit on ne l'accepte pas, est-ce que forcément les raisons économiques contribuent à faire en sorte qu'on accepte de remplir le...
Non, c'est pas... Enfin, la valeur économique n'est pas la seule raison qui vous font accepter ou pas une mission. C'est au départ des ambitions personnelles, quoi, une carrière. Quoi, hein, c'est-à-dire qu'on accepte de passer par un certain nombre d'étapes qui font qu'on a envie d'accéder à l'étage supérieur, et pour accéder à l'étage supérieur, on accepte finalement... d'être un bon soldat, quoi.
Alors,
j'ai un peu moins petit soldat que je n'étais il y a 10 ans, quoi. Voilà.
Vous êtes un peu moins petit soldat ?
Oui.
Il y a 10 ans, si je vous avais vu, j'aurais rencontré quelqu'un de vraiment...
Un peu plus petit soldat, oui. Bah, c'est-à-dire un peu plus aux ordres de sa hiérarchie, de son actionnaire et de son... Enfin, oui, des gens qu'il avait à rendre compte.
« C'était manager de transition, un bien joli métier, une nouvelle diffusion d'un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Bernard Tronel, Luc Bramy et Didier Crespel pour leur témoignage. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Yann Bouillot, une émission réalisée par Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, préparée par Pierre-Yves Bulto. Et c'est Solène Cordier qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Après la bataille, un film de Yousri Nasrallah, actuellement au cinéma. Mahmoud est l'un des cavaliers de la place Tahrir qui, le 2 février 2011, manipulé par les services du régime de Moubarak, charge les jeunes révolutionnaires. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Rim, une jeune égyptienne, divorcée, moderne et laïque. Retrouvez Après la bataille de Yousri Nasrallah dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Future Vintage d'Arnaud. Luxuriant, kaléidoscopique et continuellement inventif, le nouvel opus d'Arnaud est un ensemble de rock affûté. En tournée dans toute la France, et les 26, 27 et 28 novembre, au Café de la Danse. Retrouvez Arnaud et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Et après le journal, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est tout pile 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet.
L'intersyndicale PSA d'Aulnay a été reçue en début d'après-midi par François Hollande à l'Élysée. Elle a demandé au chef de l'État de suspendre le plan social qui prévoit la fermeture de l'usine et à terme la suppression de 8000 postes, dont 3000 CDI. Pas de gel du plan social, leur a répondu François Hollande. En revanche, il leur a promis que la réunion tripartite État-syndicat-direction aurait lieu mi-octobre. Plusieurs centaines de membres du personnel des hospices civils de Lyon ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'établissement public. Ils protestaient contre les suppressions de postes prévues pour assainir les comptes. L'Allemand Siemens, le Suisse ABB et le Français Alstom, condamnés tous les trois à payer une amende de 24 millions d'euros. L'office allemand anticartel leur reproche leur entente sur les prix sur le marché allemand des transformateurs d'énergie. Un bombardement d'une station-service dans le nord de la Syrie a fait au moins 54 morts aujourd'hui. Le raid s'est produit près de la frontière turque où les insurgés se sont emparés hier d'un nouveau poste frontière. Retour en France, pas de morale pour les voleurs. Les compagnons d'Emmaüs de la ville Dieu du Temple dans le Tarn-et-Garonne ont découvert hier qu'on leur avait volé les roues de leur camion. Laure Nguyen est la responsable du centre.
On nous a volé 10 roues de camion, donc les petits camions, les 3 tonnes 5 là, qui sont garés sur notre parking. On s'est retrouvé avec 4 camions sur cale, avec les roues en moins. Et je trouve ça toujours aussi dégueulasse, c'est pas le mot, mais ouais, c'est hallucinant. On se dit c'est pas possible quoi. Enfin, on se dit même qu'on essaye déjà de faire vivre 55 personnes en récoltant du matériel donné des fois bien aimablement. Et puis quand on vient nous sucrer ces moyens de travail, on se dit bah c'est pas cohérent quoi. Ouais, on n'embarque pas ça dans une petite voiture, ça c'est sûr que ça peut plus se faire à pied. On continue toujours. Après, ben, toute la flotte n'est pas rééquipée. Hein. 10 roues de camion, vous imaginez, à 200 euros le pneu, ça va vite, plus les jantes et compagnie. Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'on va rééquiper tous ces camions? Est-ce qu'on va tout nous revoler? Est-ce que demain, on viendra dans nos mobilhomes voler notre vélo qu'il y a devant? Est-ce que ça laisse quand même un gros doute sur l'insécurité et sur l'incompréhension qu'on puisse faire ça ici, quoi?
Des propos recueillis par Frédéric Bourgade. Une jeune femme voilée de 18 ans a été condamnée aujourd'hui à 2 mois de prison ferme. Au mois de juillet à Marseille, elle avait refusé de se soumettre à un contrôle d'identité et avait mordu dans la foulée une fonctionnaire de police. À propos justement des contrôles d'identité, 8 associations du monde judiciaire, dont le syndicat de la magistrature classé à gauche et la Ligue des droits de l'homme. Ces associations donc appellent aujourd'hui le gouvernement à respecter l'engagement de campagne de François Hollande. Elles réagissent aux propos de Manuel Valls pour qui l'éventualité de délivrer un récépissé après chaque contrôle serait enterré. Le récépissé est au contraire la bonne réponse selon ces associations. Cette procédure rendra plus transparente la façon dont les contrôles sont effectués. Le tribunal correctionnel de Limoges a condamné aujourd'hui le secrétaire départemental du FN en Haute-Vienne ainsi qu'un militant frontiste. 4 mois de prison avec sursis pour violence avec ou sous la menace d'une arme. Les faits remontent à avril dernier dans un bar de la ville. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Dimanche, une journée au Louvre
avec France Inter.
À partir de 11h, France Inter s'installe en direct et en public du musée du Louvre, pavillon Visconti, pour fêter l'ouverture du nouveau département des arts de l'islam.
Retrouvez à 11h François-Régis Gaudry pour On va déguster.
À midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
À 14h, Paula Jacques, Cosmopolitaine.
Et de 15h à 17h, une émission spéciale présentée par Philippe Collin et Xavier Mauduit.
Tu vas voir, Mauduit, ça va être ambiant Champs-Élysées. Hein.
Ah bon, il y aura Michel Drucker ?
Non, pas vraiment, je parle des invités.
Ah bon ?
Henri Loirette, président-directeur du Louvre.
Sophie Macariou,
conservatrice et directrice du département Abdel des arts de l'islam.
Philosophe.
Nicolas Philibert.
Jean-Claude Carrière.
Cinéaste et scénariste.
Et beaucoup d'autres artistes et intellectuels.
Il sera pas là, Michel Drucker ?
Dimanche.
Bah, je sais pas, faut voir.
France Inter s'installe en direct et en public au musée du Louvre.
Pour assister aux émissions et réserver vos places, rendez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Alors, France Inter.
Si ça continue, ça finira jamais. Hein.
La voix est libre.
Et c'est avec Carrefour de l'Odéon, avec Frédéric L'Odéon, que vous avez rendez-vous maintenant. Mais oui, la voix est libre.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez le mieux possible. Le grand chef d'orchestre suisse Armin Jordan nous a quittés exactement il y a 6 ans et il n'aurait pas voulu du tout qu'on pleure en pensant à lui. Oh non, il était trop drôle, très amusant, spirituel, même quelquefois provocateur. Il était nourri des cultures allemandes et françaises à la fois. Il était l'interprète de Haydn, de Mozart, de Wagner. Il avait le culot de dire que Mozart n'était pas toujours parfait, et Beethoven de même d'ailleurs, mais enfin il aimait aussi diriger des auteurs plus difficiles, Berg, Schoenberg, Schrecker. Et il était vraiment un très très bel interprète de Fauré, de Chausson, de Ravel, de Debussy, nos auteurs bien français. Et je vous propose d'entendre tout de suite un extrait d'une sérénade dite Grande Partita. Donc c'est une suite, une partita, et on va entendre la conclusion, le rondo Allegro Molto, par un ensemble qui s'appelle Fidelio. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble qui est issu de l'orchestre de la Suisse romande, et Armin Jordan disait que la santé d'un orchestre dépendait en quelque sorte de ces formations de chambre. C'est-à-dire que si les musiciens jouent ensemble avec plaisir, ben ils forment après un orchestre beaucoup plus large. Et Fidelio, ben ça vient évidemment de l'œuvre de Beethoven qui est tout à fait superbe et que l'ensemble Fidelio a joué dans une transcription. Rondo, Allegro Molto.